Radio Okapi. Pascal Masirika pour les journaux.
Les titres du journal au Nord Kivu, la cité d'Oicha a recouvré sa quiétude après le soulèvement des habitants contre l'assassinat d'un élève lundi soir. La dispersion au gaz lacrymogène par la police nationale a coûté la vie à un manifestant. Grogne dans les établissements de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel de Tshilenge au Kasaï oriental. Les enseignants réclament leur salaire du mois d'octobre et l'ajout de 25 000 francs congolais sur cette enveloppe. Le PAM RDC tire la sonnette d'alarme. 250 000 enfants pourraient mourir de faim dans les prochains mois, provient le chargé de nutrition au sein de cet organisme. Patrice Badibanga est l'invité de Radio Okapi ce soir. Madame, messieurs, bonsoir. Nord Kivu pour commencer votre journal. Le calme est revenu cet après-midi à Oicha après la manifestation des habitants ce matin pour protester contre l'assassinat lundi soir d'un élève par des présumés éléments des FARDC. Le bilan fait état d'une personne tuée et une autre blessée lorsque la police nationale a dispersé la foule au gaz lacrymogène. Le récit de Sekombi Katondolo.
C'est vers 19h de ce lundi que le présumé militaire de FARDC aurait tué sur cet élève finaliste de 25 ans à Tenambo, à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Ce matin, la population a manifesté pour exiger le remplacement de cette unité de FARDC, alors que le manifestant en colère s'est dirigé vers le bureau de l'administrateur du territoire en cassant, brûlant tout sur leur passage. La police nationale, appuyée par la police militaire, les disperse au niveau du grand rond-point de la cité en tirant des bombes à gaz lacrymogène et des balles réelles. Selon la société civile locale, une femme tombe, un autre garçon est atteint au niveau de l'abdomen, rapporte la même source. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Beni, Amissi Kalonda, demande à la population de garder son calme et de laisser la justice faire son travail.
Nous devons vraiment gérer cette situation avec sagesse, sinon nous risquons de continuer à perdre déjà initialement.
Par ailleurs, il demande au commandant des unités récemment mutées dans la zone de contrôler leurs éléments indisciplinés et de les sanctionner afin d'éviter ces cas d'assassinat devenus récurrents. De son côté, les porte-parole militaires des opérations Sokola 1 Nord parlent d'un cas de trop et que l'armée fait tout pour dénicher les auteurs de ces crimes. Rappelons que 3 autres personnes ont été tuées en début du mois par des présumés militaires FARDC dans cette commune rurale de Beni. Beni, c'est Kombi Katondolo, Radio Okapi.
Le secteur opérationnel du Grand Kasaï est désormais renforcé d'un nouveau régiment venu du Congo central après la relève de certaines unités de la 21e région militaire, annonce faite lundi à Kananga par son commandant au cours d'une parade organisée à l'école de formation des officiers. Le général Marcelin Assoumani, vous allez l'entendre, a pris l'engagement de sécuriser les habitants de l'espace kasaïen qui sort d'une crise née du phénomène Kamouenansapou. Ses propos sont recueillis par Blaise Ndongala.
Les unités qui sont arrivées vont bien remplir leur mission. C'est une occasion pour moi ici de rassurer encore la population du Grand Kasaï, que nous continuons à assurer leur paix, assurer leur sécurité, jusqu'au sacrifice suprême. Et ça, c'est notre mission, et les militaires sont sensibilisés pour cela, hein, pour s'en sortir. J'ai demandé aux militaires et à la population d'être dans un mariage tout à fait mystique, hein, qu'il n'y ait pas de secret entre les deux, que la population dénonce facilement tous les malfaiteurs, pour les neutraliser davantage, pour que le peuple Grand Kasaï reconnaissent les temps passés. Alors, la mission spéciale, c'est la poursuite de la consolidation de cette paix pour que le peuple soit toujours sécurisé.
Revenons un instant dans la province du Nord Kivu où les pêcheurs de Kavinyonge ont récupéré lundi après-midi leur moteur hors-bord de main des Maïmaï après versement de la somme de 95 000 francs congolais par équipement. Kavinyonge est une cité située au sud-est du territoire de Beni au bord du lac Édouard. Ces moteurs hors-bord avaient été saisis par ces miliciens dimanche. Notez que l'activisme des Maïmaï constitue ce jour-ci une menace sérieuse des pêcheurs dans cette partie de la province. C'est ce que nous explique Bernard Nyangi.
C'est au moins 33 moteurs hors-bord, dont un appartenant à des pêcheurs ougandais qui avaient été saisis dimanche par les Maïmaï dans la zone de Nyakakoma. Le tort des propriétaires de ces pirogues congolais comme ougandais, c'est de n'avoir pas les moyens de payer les 15 000 francs des jetons que leur imposent ces Maïmaï hebdomadairement comme taxe sur la pêche. Outre le risque d'un conflit entre Ougandais et Congolais que cela peut entraîner, l'activisme de ces Maïmaï menace aussi la survie de l'activité de pêche sur le lac Édouard, partie du parc national de Virunga, dit le directeur de la coopérative des pêcheurs de Virunga, Adolphe Kakoulé.
À la côte est, on ne sait pas aller au lac en passé par Moutimatianga et il y a un jeton de 10 à 15 000 francs par semaine. À toute pirogue qui veut aller faire la pêche. Vers le sud du lac, c'est-à-dire à Tianika, là il y a un certain balai. Et toute la côte ouest aujourd'hui, on ne sait pas qui fait la loi. Donc pour les pêcheurs, ouvrir la production. Et c'est voilà pourquoi nous sommes sacrifiés.
C'est depuis fin 2015 que ces Mai Mai insécurisent le lac Édouard. La force conjointe FARDC-ICCN a déjà mené une dizaine d'opérations militaires contre ce groupe, mais elle n'arrive pas à les enrayer. Le comité de pêche plaide pour le rétablissement urgent de l'autorité de l'ICCN autour de ce lac. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
La suite du journal à 18h05 à Kinshasa. Au moins 56 personnes tuées par balle, une autre au gaz lacrymogène et trois policiers tués par des civils lors des manifestations organisées pendant les 5 derniers mois. C'est ce qui ressort en tout cas du monitoring qui a été fait par la CENCO et dont le rapport a été publié lundi ici à Kinshasa par la commission justice et paix sur la période du 13 mai au 26 octobre. Le compte-rendu d'Astrinzi Batayro.
200 moniteurs ont été déployés dans 15 villes de la RDC pour faire le monitoring des manifestations et réunions publiques. Du 13 mai au 26 octobre 2017, la commission Justice et Paix Congo de la CENCO a reçu un total de 63 rapports. Il y ressort de ce rapport que plusieurs cas de violation des droits de l'homme ont été commis lors de différentes manifestations publiques. D'après la synthèse de ce rapport lu par l'abbé Chollet, c'est l'usage disproportionnel de la force par la police qui est à la base d'au moins 98% de cas de violation des droits humains. La CENCO a noté au moins 56 décès par balle et gaz lacrymogène, 355 cas d'arrestation de manifestants et organisateurs de manifestations par le policier, le FARDC et autres services spécialisés. La CENCO a également constaté que les manifestations des partis politiques de l'ANP se sont déroulées en toute quiétude, y compris celles de l'opposition œuvrant au sein du gouvernement. Tandis que les manifestations publiques organisée par l'opposition politique œuvrant en dehors du gouvernement, les organisations de la société civile et les mouvements citoyens ont été étouffés, empêchés, interdites ou alors dispersés par la police avec usage du gaz lacrymogène et de balles réelles.
Et puis, au Kasaï oriental, un mouvement de grève est observé depuis hier lundi dans les établissements de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel du territoire de Tshilenge. Les enseignants réclament leur salaire du mois d'octobre et un ajout de 25 000 francs congolais sur cette enveloppe. Radio Okapi Mbujimayi, Chris Mukand.
Ce montant de 25 000 francs congolais d'ajout sur salaire apparaît sous les listes de paie depuis le mois de septembre dernier, mais n'est pas versé au moment de la paie, renseigne le président du syndicat des enseignants du Congo, SIECO Coordination de Tshilenge. Comme aucune explication n'est fournie, les enseignants décident donc de suspendre les cours jusqu'à ce que ce montant leur soit versé. Ils exigent que ce soit plutôt 50 000, car on est déjà au mois de novembre alors que cette disposition devait commencer à courir. Depuis le mois de septembre dernier, le syndicat des enseignants du Congo avance une autre exigence, que la charge de la paie des enseignants de Tshilenge soit confié à une autre banque. Celle qui s'en acquitte jusque-là n'aurait ni siège, ni représentation au Kasaï oriental, ce qui serait à la base du retard dans la paix et des difficultés de réclamation en cas de contestation. Disons que ce mouvement d'humeur des enseignants en rapport avec cet ajout est observé également dans d'autres parties de l'ex-Kasaï oriental. À Lusambo, dans la province du Sankuru, par exemple, ce n'est que ce mardi que les enseignants ont repris la craie. Durant une semaine, ils ont demandé aux élèves de rester à la maison tant que les 50 000 francs congolais ne leur auraient pas été versés. De passage à Lusambo, le week-end dernier, le ministre de la fonction publique s'est engagé à s'investir en vue d'une solution. Chris Mukand, Mbujimayi, Radio Okapi.
Pour l'instant, faisons un détour par l'Ituri où plus de 700 élèves du primaire et du secondaire qui sont inscrits dans les classes supérieures avec de faux bulletins doivent être rétrogradés avant la fin de cette semaine. C'est ce qu'annonce le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et PSP après une enquête qui a été menée par ses services. Moins et Mutombo parle d'un scandale entretenu par certains chefs d'établissement qui doivent être punis. Reportage à Bounia de José Deschartemenga.
Le Service national d'identification des élèves CERNI a effectué une enquête dans toutes les écoles pour retracer le parcours de chaque élève. Le résultat est scandaleux. Plus de 700 élèves sont inscrits avec de faux bulletins dans les classes montantes. Le directeur de l'EPSP trouve cela inadmissible. Mwende Mutombo.
Le constat est vraiment amer. Les chefs d'établissement ont inscrit dans leurs écoles les élèves qui n'ont pas de bulletin, les élèves fausseurs qui ont échoué dans certaines écoles. Alors pour eux, ils les ont recrutés dans les classes supérieures. Alors ce qui est totalement inadmissible.
Les PSP affirment que ce sont plus les écoles privées qui sont concernées par ce phénomène. Elles sont tentées par l'argent généré par l'afflux des nouveaux élèves. Pour Mwende Mutombo, les responsables de ces établissements ne le méritent pas.
Ces chefs d'établissement ont saboté les instructions officielles. Ils ont saboté la loi cadre. Mais nous devons à tout prix sanctionner. Mais nous devons les sanctionner. Les chefs d'établissement qui commettent des bêtises comme ça, on doit les décommissionner. C'est-à-dire qu'il n'est pas chef d'établissement. Ils ont fait ça sciemment. Ils avaient besoin de gonfler les effectifs pour avoir l'argent des collations.
Certains parents affirment qu'avec ces chiffres, c'est la mort à petit feu de l'éducation dans cette partie du pays. Bounia, José de Chartemenga, Radio Okapi.
Non loin de là, à Kisangani, dans la province de la Tchopo, une maison d'habitation et plusieurs boutiques ont pris feu hier soir dans la commune de Makiso. 80% des biens sont partis en fumée. Pas de précision pour l'instant sur l'origine du feu. Une correspondance d'Aliana Alipanagama.
C'est aux environs des minuit que s'est déclaré cet incendie, ont expliqué certains témoins voisins du lieu de l'incident. À cette heure, la nuit était calme, pas de circulation sur le boulevard Mobutu. Le feu a commencé comme un petit jeu de lumière dans la boutique pour ensuite embraser toute la maison. Dans l'anonymat, un gardien commis à la sécurité de l'immeuble SNL d'en face relate les faits.
J'ai vu un petit feu dans la boutique. Finalement, ça a évolué. Ça a atteint toute la boutique. Il n'y avait plus moyen d'intervenir puisqu'il faisait 1h du matin et toute la maison a pris feu.
Une des victimes, propriétaire de la boutique de vente des articles Canal+, donne un premier bilan. Jean-Luc Louboya.
Mais on a perdu le climatiseur, le qui était à l'intérieur, certains documents, les antennes paraboliques de chaises, de tables et la télévision. En termes de dollars, ça peut arriver dans de mille et quelques. Hein.
Deux hypothèses ont été formulées sur l'origine du feu. L'une parle d'une bougie allumée oubliée dans la boutique et l'autre évoque un court-circuit au moment de l'essai de la remise de l'électricité par la SNEL. Donatien Alien Ali Panagama, Kisangani, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la présentation ce mardi ici à Kinshasa de deux rapports d'un groupe de la Banque mondiale. Le premier porte sur la gestion des dépenses publiques, l'accroissement de l'efficacité et l'efficience du secteur public pour promouvoir la croissance et le développement du pays. Le deuxième rapport porte sur l'utilisation de la rente des industries extractives. Jean-Pierre Elali Koko.
Ces deux rapports partent du constat selon lequel les recettes publiques et domestiques sont insuffisantes pour promouvoir la croissance et le développement de la RDC. Les financements du secteur public dépendant en grande partie de l'extérieur. C'est le cas de l'eau et de l'électricité. Laurent Debrou, représentant résident de la Banque mondiale en RDC.
Dans un pays qui dispose d'autant de ressources hydrauliques et énergétiques, la situation sous-optimale des secteurs de l'eau et de l'électricité résulte dans de l'insuffisance des allocations en ressources financières. Environ 84% du financement est extérieur. 14% est de l'autofinancement par la régie des eaux et l'État, lui, n'a contribué qu'à hauteur de 2% du montant total.
Ces rapports révèlent que la RDC demeure l'un des pays où le taux d'accès à l'électricité est le plus faible du monde. Dans le deuxième rapport, il est beaucoup plus question des industries extractives dont la rente devrait contribuer au bien-être de la population congolaise. La RDC devrait s'inspirer de l'exemple de la Corée du Sud. Shadi Bou Habib, économiste en chef pour la RDC à la Banque mondiale.
Le président coréen, en fait, dit 52% de mon budget est financé par les États-Unis. Comment est-ce que moi je peux penser à des politiques de développement de long terme, d'une partie axée sur la réforme fiscale, notre partie axée sur la réforme administrative et une troisième partie sur la transformation structurelle de l'économie. Et ces politiques ont mené à la Corée du Sud que nous voyons aujourd'hui.
Un mot de politique à présent. L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité lors de la plénière de ce mardi ici à Kinshasa le rapport de la commission PAJ sur l'examen de la proposition de loi organique portant création du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et parmi les grandes orientations retenues par la commission PAJ, le CENSA reste une institution d'appui à la démocratie ayant une autonomie d'action. Le bureau de la Chambre basse du Parlement congolais a accordé 48 heures pour les amendements et un dernier toilettage. Cette proposition de loi sera votée dans 48 heures avant d'être envoyée au Sénat pour une seconde lecture. Le rapporteur de la commission PAJ évoque ici les grandes lignes. Le député Bokona Bonjali est au micro de Michel Kifinangoy. Nous allons y revenir dans les prochaines éditions d'information dans quelques instants, l'actualité africaine et internationale.
Actualité Afrique Monde.
Au Zimbabwe, un concert d'avertisseurs a immédiatement salué ce mardi après-midi à Harare l'annonce de la démission du président Robert Mugabe après 37 ans de règne marqué par des violations des droits de l'homme et une terrible crise économique. Nous sommes tout heureux. Enfin, les choses changent au pays. On se réveille depuis si longtemps en attendant ce jour. Le Zimbabwe a traversé des périodes extrêmement difficiles de son histoire. C'est le genre des commentaires entendus aujourd'hui par le journaliste de l'AFP dans les rues de Harare, la capitale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce mardi à l'unanimité une résolution sur les traites d'êtres humains dans des pays en conflit visant notamment à accentuer dangereusement le partage d'informations entre ses membres afin de mieux lutter contre ce fléau. Il s'agit notamment de la deuxième résolution du Conseil de sécurité après un premier texte qui a été adopté le 20 décembre 2016 portant sur le flux financier lié au trafic d'êtres humains et qui appelait le secrétaire général des Nations Unies à renforcer davantage la coordination de la mission dans ce domaine. L'adoption d'un deuxième texte qui a été préparé de longue date par la présidence italienne du Conseil de sécurité pour le mois de novembre intervient une semaine après la révélation par la chaîne de télévision américaine CNN des marchés d'esclaves en Libye, impliquant ainsi des migrants africains qui a horrifié le monde. Cette résolution du Conseil de sécurité vise à créer un partenariat mondial pour lutter contre les trafics. Elle dénonce également les groupes terroristes qui profitent de la faiblesse des États pour alimenter les trafics d'hommes, des femmes et des enfants.